Il est 5h. Les restaurateurs retrouvent les grandes tablées et le sourire. Les carnets de réservation peuvent désormais être remplis au maximum. En ce 1er juillet, les jauges appartiennent au passé. Un homme de plus dans la course à la présidentielle, Yannick Jadot, s'est officiellement déclaré hier soir. Il se soumettra à la primaire écologiste. Et puis nous visiterons l'équivalent provençal du Puy du Fou. Le site s'appelle le Rocher Mistral. Il ouvre aujourd'hui au public dans les Bouches-du-Rhône.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin. Et puis nous serons sur la Côte d'Azur, chez notre boulanger. Pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce matin, on ne va pas vous parler du variant Delta ou des craintes d'une quatrième vague de l'épidémie. On va plutôt parler de liberté retrouvée. Les restrictions, c'est fini. Fini, par exemple, les jauges au cinéma, dans les commerces, ainsi qu'aux restaurants. Plus besoin de se limiter à 6 par table. Le reportage de Pierre Arbulot en salle et en cuisine.
Des casseroles de sauce beaucoup plus remplies et deux fois plus de homards à préparer en cuisine.
Ben là, ici, on est en train de faire une rillette de homards avec des fines d'herbe et des agrumes.
Le chef libanais Alain Djeham mobilise ses troupes. Le monde d'avant est de retour.
Alors les garçons, là, à partir d'aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus de jauge. Il n'y a pas 2 couverts ou 4 couverts ou 6 couverts. Le restaurant, il est plein.
Dans ces 2 établissements parisiens, le restaurateur va faire son meilleur chiffre depuis 8 mois.
On va gagner presque 7 couverts sur 24, ça veut dire qu'on va gagner presque 30% d'activité. Et pour surtout le monde bistrot, là je vais gagner presque 50%. Du coup, je suis très très soulagé.
En salle, un regain de convivialité avec à nouveau des grandes tablées de 10-12 personnes qui manquaient de temps à Léa et Marina.
Très bonne nouvelle, ouais. Enfin. Les tables à 6, c'était embêtant, là par exemple avec le road foot, etc. C'était un peu pénible de devoir réserver tout le temps.
Moi je suis très festive, j'aime beaucoup aller au restaurant, sortir. C'est bien qu'on puisse reprendre notre vie d'avant.
Reste un détail qui détonne pour le chef Alain Djeham, fraîchement vacciné. Le masque étouffant dans les chaleurs de la cuisine dont il aimerait enfin pouvoir se débarrasser.
Précisons que les jauges et autres limitations sont prolongées d'une semaine tout de même dans le département des Landes à cause de la forte circulation locale du variant Delta.
Le gouvernement avait alerté ces derniers jours sur un ralentissement de la vaccination. 300 000 rendez-vous sont disponibles rien que pour les 3 prochains jours sur le site Doctolib.
Oui, alors pour relancer le rythme des injections, de nombreux médecins généralistes aimeraient avoir accès à la liste de leurs patients non vaccinés. Et le ministre de la Santé y est plutôt favorable, Anne Le Gall.
Oui, et cette hypothèse est actuellement étudiée par la Commission nationale informatique et liberté, même si concrètement cette information est loin d'être confidentielle, explique le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, car les médecins peuvent déjà savoir si leur patient a été vacciné ou non.
Dès lors qu'on connaît le numéro de sécurité sociale de notre patient, on peut aller sur le site Vaccin Covid et savoir si ce patient a été vacciné. Le problème, c'est que ça, c'est pour un patient donné. Si on veut avoir la totalité de notre patient, c'est un travail évidemment considérable et on a besoin de ces listes pour pouvoir repérer rapidement quels sont les patients concernés.
L'accès direct à la liste des patients vaccinés leur permettrait donc de gagner du temps pour contacter et échanger avec ceux qui n'ont pas encore reçu leur première dose. Cette demande de simplification informatique n'est pas nouvelle car en réalité cela fait plusieurs années que les médecins la réclament pour savoir par exemple plus facilement qui a réalisé les examens de dépistage généralisé du cancer ou qui est vacciné contre la grippe, mais sans succès pour l'instant. Si cette nouvelle possibilité était offerte pour la vaccination anti-Covid, ce serait une première.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
La forte augmentation du prix du gaz dès aujourd'hui, 10% de hausse du tarif réglementé.
Et alors, qui est concerné exactement? Eh bien, la spécialiste énergie d'Europe 1, Maud Descamps, va nous le dire et nous donner des pistes pour payer moins cher.
Ce sont 10 700 000 abonnés au tarif réglementé qui vont voir leur facture augmenter ce mois-ci. Des abonnés qui déboursent en moyenne chaque année 1 200 euros pour se chauffer au gaz. Pour faire baisser la facture, il existe par exemple la solution de l'achat groupé. Les consommateurs se réunissent et négocient un tarif avec un fournisseur. Certaines associations de consommateurs lancent régulièrement ce type de campagne. Cette forte hausse des tarifs s'explique principalement par la montée des prix du gaz sur les marchés mondiaux. Il faut remonter à 2008 pour avoir des cours aussi élevés. Et puis, autre raison, le coût croissant des certificats d'économie d'énergie que les fournisseurs français sont tenus de financer pour atteindre des objectifs en matière de sobriété énergétique, des seuils fixés par le gouvernement. Il faut néanmoins noter que cette hausse de 10% intervient après plusieurs mois de baisse des prix du gaz tout au long de la crise Covid.
Et on en parlera à 5h40 de ces différentes manières d'économiser sur sa facture de gaz avec Antoine Autier de l'UFC Que Choisir.
La politique avec une nouvelle candidature à l'Élysée, ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Yannick Jadot s'est déclaré dans un entretien au magazine L'Obs et hier soir aux 20h de TF1.
Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que face au dérèglement climatique, face aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser, on ne peut plus reporter à demain les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui. Alors je veux mettre l'écologie au cœur du pouvoir, au cœur d'un grand projet de société.
Le maire de Grenoble, écologiste lui aussi, Éric Piolle, a déclaré aujourd'hui sa candidature à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022. Est-ce que vous aussi, vous allez passer par cette primaire ?
Bien sûr, j'ai toujours été fidèle, loyal à ma famille politique. C'est un mode de désignation transparent. C'est ma famille et moi, je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle.
Ils sont donc trois candidats à la primaire écologiste, puisqu'en plus de Yannick Jadot et d'Éric Piolle, Sandrine Rousseau, universitaire économiste et secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est dans la course également.
Il y a presque un an, le 14 juillet 2020, Emmanuel Macron annonçait la généralisation des caméras piétons pour les policiers et gendarmes. Leur déploiement commence aujourd'hui.
Oui, 30 000 caméras vont être progressivement attribuées aux patrouilles. L'idée, selon les termes du ministère de l'Intérieur, c'est d'apaiser les tensions, les situations conflictuelles et limiter les débordements éventuels. Explication concrète avec Dominique Ledournais, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police.
Ce sont des petits boîtiers qui seront portés sur le torse de l'agent par déclenchement à la charge de l'agent dans le cas d'une action de police, de façon à ce que la caméra puisse filmer l'ensemble de l'action. Dans le cas où un équipage est doté de plusieurs caméras, le déclenchement d'une caméra déclenche les autres, ce qui fait qu'on aura une périphérie complète de l'action. Il n'y a aucune modification possible de la vidéo prise par la caméra. C'est clair que nos collègues en veulent, afin de défendre au mieux les intérêts de nos collègues, mais aussi des citoyens. Ça fait partie aussi des intérêts de tous.
Dominique Ledournais au micro Europe 1 de Gladys Laffitte.
Aux États-Unis, l'acteur Bill Cosby, 83 ans, est libre. La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle.
Et il est sorti de prison dans la foulée. Les juges ont en fait estimé que les droits de l'accusé n'avaient pas été respectés. Alexis Guilleux, on vous retrouve, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors c'est un vrai retournement de situation et un coup dur pour les défenseurs des victimes de violences sexuelles.
Oui, parce que la condamnation de Bill Cosby en 2018, elle est souvent considérée comme la première du mouvement MeToo, entre 3 et 10 ans de prison pour avoir drogué et violé Andrea Constant, une basketteuse qu'il avait invitée à son domicile en 2004. Plus de 60 femmes au total avaient accusé l'ancienne icône de la télévision américaine d'agression sexuelle, mais seule cette affaire impliquant Andrea Constant n'était pas prescrite. Hier, les juges de la Cour suprême de Pennsylvanie ont donc relevé un vice de procédure pour annuler cette condamnation. Dans un arrêt de 79 pages, il souligne un affront au principe d'équité. En fait, un procureur avait, dans un premier temps, expliqué à Bill Cosby qu'il ne craignait rien s'il témoignait au civil, ce qu'il avait fait. Mais c'est sur la base de ce témoignage que l'acteur a ensuite été condamné au pénal. Ses avocats se sont donc lancés dans une longue bataille juridique remportée hier. Âgé de 83 ans, Bill Cosby est immédiatement sorti de prison. Il a regagné son domicile dans la banlieue de Philadelphie. Devant les caméras, il est resté muet, levant simplement le bras et deux doigts en signe de victoire. D'après la Cour suprême de Pennsylvanie, Bill Cosby ne pourra pas être rejugé pour les mêmes faits.
Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
Il est déjà surnommé le Puy du Fou provençal, situé entre Marseille et Avignon. Le rocher Mistral ouvre ses portes aujourd'hui.
Oui, c'est un écrin de 400 hectares, entouré de garrigues et surmonté du plus ancien château de Provence, totalement rénové pour accueillir ce projet de parc patrimonial. Visite donc en avant-première avec Stéphane Frangy.
À la lumière de chandelles, des salons, des couloirs sombres se succèdent pour faire défiler l'histoire parfois terrible du château entre peste et révolte.
Le comté de Provence brûle et on m'informe que les rebelles marchent sur le château de la Barre. Il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard.
Au milieu des décors, des acteurs font vivre l'histoire autour de spectateurs en immersion totale.
Ah, moi, je suis dedans. Je crois participer à l'attaque du château, tout ce qui se passe. Hein. On ressent tout.
Mais avant d'en arriver là, il a fallu réhabiliter ce château en 8 mois. Patrick Geoffrey, entrepreneur spécialisé dans les monuments historiques, a pris part au chantier.
Ils sont partis de très loin. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Quoi. Pas en ruine, mais bon, il fallait tout aménager. Toutes les terrasses ont été refaites. L'écurie, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail.
Les spectacles se poursuivent dehors, au travers du marché provençal et du jardin Le Nôtre. Vianney d'Alençon, le fondateur et propriétaire propriétaire nourrit de hautes ambitions pour le Rocher Mistral.
Là, c'est un patrimoine qui revit. Il y a plus de 200 personnes qui ont été recrutées en direct. C'est un gros projet, fort pour le territoire et pour la région.
Et ainsi, 30 millions d'euros au total ont été investis dans ce projet. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Le Rocher Mistral qui est ouvert tous les jours cet été. Et notez que les tarifs sont réduits en soirée après 20h.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 5h10. Et nous ouvrons la page des sports. Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le Tour de France est-il déjà gagné?
Quand on voit la performance de Pogacar hier, on peut déjà se le demander. Le tenant du titre s'est montré intraitable sur le contre-la-montre. Ce n'est pas sa spécialité. Le Slovène, meilleur chrono, n'a plus que 8 secondes de retard au général sur Van Der Poel. Est-ce que cette performance est étonnante? On écoute l'ancien double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet.
C'est un presque contre un monde de puncheurs, parce qu'il y avait beaucoup de relances, il y avait beaucoup de différences de pente, il y avait des faux plats, une bonne petite côte, des petites descentes. Et de toute façon, quand on est vraiment en très bonne condition physique, on passe un peu partout. Et je pense que Pogacar a un potentiel qui est supérieur à celui de tous ses adversaires là pour le moment.
Bernard Thévenet avec Axel May. Julien Alaphilippe a terminé 14e. Il est 4e du général à 48 secondes de Van Der Poel. Aujourd'hui, c'est plus calme. Étape taillée pour les sprinteurs entre Tours et Châteauroux.
Et la tornade Pogacar, hein, c'est la une
du journal
L'Équipe ce matin. Le football et l'élimination des Bleus en 8e est toujours au cœur des conversations.
Oui, chaque jour apporte un élément nouveau, qu'il s'agisse de la préparation, d'une anicroche entre des membres des familles de joueurs. Mais pour Giroud, le problème est ailleurs.
Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai lu dans L'Équipe que nous allions passer en 3-5-2, je dis mais là, il doit y avoir une potion de je ne sais pas quel liquide pour qu'on en arrive là. J'étais dans une fureur, j'étais persuadé qu'on allait perdre et j'ai pris la page de L'Équipe où il y avait la probabilité qu'on joue le 3-5-2, je l'ai mise dans ma cheminée, j'ai mis le feu.
Voilà, c'est Giroud. Furieux après Deschamps.
On passe au tennis avec la confrontation Federer-Gasquet à Wimbledon aujourd'hui.
Oui, que va donner ce France-Suisse-là? Les deux hommes se sont déjà affrontés 20 fois et Federer a gagné 18 fois. Hier, Joe Wilfried Tsonga lui s'est fait sortir au premier tour, alors que Gaël, mon fils, a remporté le sien en 3 jours à cause de la pluie.
Non mais ça suffit la Suisse là maintenant. Ça a été du basket, la dernière ligne droite pour les Bleus avant les Jeux.
Au programme, 4 matchs amicaux, 2 face à l'Espagne et le capitaine Boris Diaw, impatient d'être à Tokyo.
Le fait que ce soit une échéance à part, c'est vraiment le fait qu'il y ait tous les sports, que tous les sports soient réunis. D'habitude, on fait déjà partie du groupe France et on a vraiment l'impression de représenter le pays. Donc c'est vraiment une expérience à part. Maintenant, c'est vrai que cette année, avec les conditions sanitaires, je pense que ce sera un petit peu différent. En tout cas, le fait de croiser les autres athlètes et de pouvoir les supporter. Mais c'est pour ça, je pense qu'elle a vraiment un parfum particulier.
Boris Diaw avec Julien Froment. Et puis retenez bien ce nom, Victor Wembanyama, 17 ans, 2m19. Il a signé avec l'ASVEL, le club de Tony Parker, qui dit n'avoir pas vu un tel potentiel en 20 ans. 2m19, hein.
Et oui, mais pas tout petit. Hein.
À
tout à l'heure, Lénaïque Meunier. Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 605 Améra. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant après l'arrivée, c'est elle qui possède assurément le plus de garanties pour pouvoir s'imposer. Cette pouliche, souvent placée dans des épreuves d'un niveau plus relevé, redescend ici très nettement de catégorie et elle devrait donc pouvoir justifier sans aucune difficulté son statut de favorite. Alors notez bien, pour Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 5, Améra.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouvera dans une vingtaine de minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est précisément 5h15 sur Europe 1. Très bon réveil si vous nous rejoignez, le 5-7 continue. Nous sommes le 1er juillet avec plusieurs changements à noter aujourd'hui. La forte hausse du prix du gaz, plus 10% pour le tarif réglementé. Ça concerne quand même 10 millions de clients. Le pass sanitaire qui entre en vigueur au niveau européen. Il est désormais nécessaire pour voyager d'un pays à l'autre. Et puis c'est aujourd'hui que le congé paternité passe à 28 jours, dont une semaine obligatoire. Le reste peut être utilisé dans les 6 mois après la naissance. Deux mouvements de grève à signaler aussi dans les transports aujourd'hui. Quelques perturbations à prévoir sur le réseau des TER, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. En revanche, du côté des aéroports parisiens, l'essentiel des conséquences du débrayage vont se faire sentir sur la journée de demain, vendredi. Et puis un anniversaire, les 100 ans du Parti communiste chinois. Dans un discours à Pékin, place Tiananmen, le président Xi Jinping assure que le peuple chinois s'est levé. Le temps où il était opprimé est à jamais révolu, dit-il.
Europe 1.
Allez, il est temps d'ouvrir notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange autour de moi. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Et le variant Delta qui continue de faire la une. Comment la France surveille l'évolution du virus? C'est la une de Ouest-France. Le Figaro tente de résumer ce qui inquiète, mais aussi ce qui rassure. Quand la Dépêche du Midi publie une pleine page en une, toute rouge en guise d'alerte, le risque d'une quatrième vague. Voilà le titre. Pas de vacances pour la vaccination, l'encouragement du courrier Picard. Le ciel, le vaccin et la mer. C'est le titre de 20 minutes avec une image de plage. Et dans ce contexte, les Français, justement, veulent des vacances. Quoi qu'il en coûte, c'est la une d'aujourd'hui en France, entre passe sanitaire, prix de l'essence élevé et grève à la SNCF. Enfin, autre grand titre ce matin, la vague de chaleur qui touche le Canada. L'image d'un soleil brûlant occupe toute la une de Libération avec cette température écrite en gros chiffres, 49,6 degrés. Doit-on s'y préparer? Se demande Nice Matin sur la Côte d'Azur. Ici aussi, ça pourrait arriver. Prévient Sud-Ouest, on va y revenir dans un instant. Voici d'abord les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on part d'abord sur les plateaux de cinéma.
Oui, et le festival de Cannes commence mardi prochain. Les caméras du monde entier seront tournées vers la Croisette, une occasion en or pour faire la promotion d'un cinéma qui a décidé de se mettre au vert, c'est-à-dire dans le Figaro, un cinéma plus écolo. Alors concrètement, à Cannes, le tapis rouge sur les marches du palais des festivals ne sera changé qu'une seule fois par jour et non deux, ça paraît anodin comme ça, mais c'est important. Tous les festivaliers doivent s'acquitter d'une sorte de taxe carbone d'un montant de 20 euros qui sera reversé à une ONG. Et les équipes en compétition doivent privilégier les trajets à pied. Alors, pas mal d'efforts commencent à être réalisés pour rendre le cinéma éco-responsable. Vous pouvez visiter à Martigues et près de Marseille les seuls studios verts de France. Ils appartiennent à Olivier Marchetti et qui a installé des panneaux solaires sur ses 28 000 mètres carrés de toiture. Ces studios sont éclairés avec des lampes à LED. Ces voitures sont électriques. L'eau de pluie est récupérée et elle sert par exemple à mouiller la piste des cascadeurs. Depuis 2018, il existe une société d'audit qui aide les producteurs à rendre les tournages de leurs films moins polluants. Elle a déjà été appelée sur 70 films et séries, dont la série Baron Noir, avec Cadmirad. Et alors, il faut bien se dire une chose, souvent, quand on est plus écolo, eh bien, on fait des économies. Au printemps dernier, sur le tournage du film Tempête, avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille, eh bien, servir un repas végétarien une fois par semaine à la cantine a permis d'économiser 10 000 euros une fois par semaine. Quant au film Les Têtes Givrées, tourné il y a quelques semaines dans le massif du Mont-Blanc, il peut se vanter d'être le premier long-métrage français éco-responsable de A à Z. Cantine, circuit court, compost, lingette démaquillante lavable pour les acteurs quand ils passent au maquillage. Le héros Clovis Cornillac à vélo et non transporté par un chauffeur. Voilà, sachez que le Centre National du Cinéma a lancé un plan sur 3 ans pour rendre le 7e art vert. C'est le Figaro qui en parle ce matin.
Ouais, alors attendez, au Festival de Cannes, ils changeaient le tapis tous les
deux fois par jour. Deux fois par jour.
Et là, aujourd'hui, ils vont quand même le changer tous les jours. On passe pas l'aspirateur sur le tapis rouge, on le change tous les jours.
On le change quand même tous les jours, mais ça avance. Voilà. Chaque marche après l'autre, comme sur le palais. Sur les marches du palais.
Je reviens sur le Canada et ses températures caniculaires, 49,6 degrés, je vous le disais. Nous sommes sur place d'ailleurs à Vancouver avec notre correspondant. Vous entendrez son reportage dans le journal de 5h30. Et attention à ne pas regarder tout cela trop loin, c'est un peu l'avertissement dans la presse ce matin. La France aussi risque le choc thermique, écrit Libération. Il y a eu ce record déjà en 2019, 46 degrés. Et les températures pourraient exploser au cours du siècle à venir. Un expert est très clair dans Libé, la France peut très bien rencontrer la situation météo que connaît le Canada aujourd'hui, avec ce fameux dôme de chaleur qui emprisonne cet air irrespirable. Atteindre 50 degrés, alors pas partout, mais dans un lieu à un moment donné, ça c'est possible, explique la climatologue Françoise Vimeux. En France, l'air chaud vient d'Afrique du Nord et sous l'effet du réchauffement global, cette air du Sud devient de plus en plus chaud. En tout cas, il arrive plus chaud que dans le passé. Le climatologue Jean Jouzel estime, lui, que les températures en France pourraient même atteindre les 55 degrés sur l'est du pays à partir de 2050. 2050, c'est déjà demain. Les modèles cités par Libération évoquent une hausse de 4 à 6 degrés l'été au cours du siècle. Et je ne sais pas si vous avez entendu ici même le climatologue canadien David Phillips, qui était mon invité il y a deux jours. Il rajoutait une chose, le réchauffement climatique, en plus de la hausse du thermomètre, rend ces événements extrêmes plus fréquents et plus violents. Les canicules pourraient revenir deux fois plus souvent en 2100. Et sur le couloir rhodanien, la vallée de la Garonne, l'arc méditerranéen, les vagues de chaleur pourraient durer deux mois d'été à ces températures-là, imaginez. Tout cela, évidemment, dépend de notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on en parlait hier, la France a pris du retard. Voilà, écoutez, le monde changé, c'est pas toujours très rassurant.
Hein. C'est pas toujours très rapide.
Voilà, la France risque aussi le choc thermique. C'est un article à lire dans Libération aujourd'hui. Martin, c'est à vous.
Alors, je ne sais pas si vous êtes à la recherche de rencontres amoureuses, Sébastien Omblin, mais est-ce que vous savez quel est le lieu idéal pour ça en ce moment ?
Ah bah, à nouveau les restaurants, peut-être les bars, non ? À nouveau ?
Je sens que vous allez nous amuser.
Non, en ce moment, ce sont les vaccinodromes. C'est très sérieux. Hein. C'est une enquête de Business Insider.
Ça peut attirer des gens, justement. Pardon.
En salle d'attente.
Exactement, dans les queues interminables. Alors, c'est une enquête de Business Insider menée dans le monde entier. Ils ont retrouvé des dizaines de célibataires qui, grâce à leur piqûre, ont pu rencontrer l'âme sœur, hein, comme Jaehyun. C'est un instituteur sud-coréen d'une quarantaine d'années. Il a participé à la campagne de vaccination pour les profs. Et là-bas, il a croisé une enseignante comme lui. Hein, forcément, ils avaient beaucoup de points communs. Ils ont donc été prendre un café après leur injection. Le contact est passé. Et depuis, ils se voient régulièrement. Il y a aussi des Américains, des Britanniques et même des célibataires de Singapour. Après les différents confinements, ils étaient tous très impatients de faire de nouvelles rencontres. Et la campagne de vaccination tombe à pic pour ça. Hein, des centaines de personnes réunies au même endroit, c'est encore mieux qu'un bar ou une boîte de nuit.
Bah, surtout si l'attente dure un peu dans la salle d'attente. On peut engager la conversation. Alors d'ailleurs, certains pays ont bien compris le filon et se sont associés à des sites de rencontres pour accélérer la campagne de vaccination. C'est peut-être une idée.
Oui, tout à fait. Aux États-Unis, notamment, la Maison-Blanche a autorisé les sites de rencontres comme Bumble ou Tinder à afficher le statut vaccinal de leurs utilisateurs. Ah, oui. Ça permet, si vous cherchez à faire une rencontre, de filtrer et de choisir quelqu'un qui est vacciné. Et figurez-vous que ça a nettement accéléré la campagne de vaccination des plus jeunes. Si tu matches, c'est comme ça qu'on dit quand deux personnes veulent se parler sur une appli, c'est un début de conversation garanti, assure Orla, une jeune étudiante. Alors un conseil pour finir, celui de Yeo, un jeune saga pour rien. Lui aussi a rencontré une fille qui lui plaisait beaucoup dans la file d'attente. Malheureusement, il était en tenue de sport. Alors, un tuyau avant la date de votre prochaine injection. Ne sous-estimez pas votre tenue.
Vous rentrez pas avec des baskets.
Exactement.
Voilà. Allez-y bien propre,
sur votre
bien
31,
coiffé.
Sur votre 31 pour l'injection.
On sait jamais. Et allez-y déjà.
Oui.
Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour. 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes sur la Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes ce matin pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes notre artisan boulanger, on vous retrouve régulièrement à Nice. Comment allez-vous ?
Bah écoutez, ça va super bien, je suis dans mon fournil, il fait chaud, je suis bien. Je suis en train de cuire mes croissants et mes pains au chocolat, donc tout va bien.
Vous avez de la chance d'avoir chaud, parce que je ne vous cache pas qu'on a un peu froid à Paris cette semaine. Est-ce qu'au moins l'été est arrivé sur la Côte d'Azur ?
Oui, on peut dire que l'été est arrivé. En tout cas, au niveau du climat. On a un peu de vent, on n'y est pas habitué, mais c'est vrai que depuis 3 ans, on a plus de vent que d'habitude. Mais sinon, on a le soleil, la mer est à environ 22 degrés, donc on peut déjà mettre les pieds dedans.
Bon, vous avez bien de la chance. Et les touristes, vous commencez à les voir arriver ?
Alors, on va dire que la semaine, c'est encore relativement calme, mais par contre, nos voisins italiens sont de retour. On les avait pas vus durant quasiment un an et demi, crise du Covid-19 oblige. Mais par contre, là, ça y est, ils ont fait leur retour. Donc, c'est un point positif. Mais malgré tout, on n'a pas toute la clientèle étrangère qu'on a habituellement, puisqu'on voit encore très peu de rotation d'avions, on va dire.
Ouais, alors, ça va peut-être venir avec le pass sanitaire qui est mis en place à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, l'été, c'est une saison importante. Vous travaillez plus avec l'afflux de touristes sur la côte ?
Oui. Oui, alors disons qu'on a une grosse partie des Niçois qui part l'été, qui va soit dans l'arrière-pays, soit dans la famille. Mais l'afflux touristique qu'on a l'été, moi, dans ma boulangerie, c'est en moyenne plus 30% par rapport au restant de l'année. Donc c'est quand même relativement considérable et c'est vraiment la période où on n'a pas le droit à l'erreur.
Ouais, pas le droit à l'erreur, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de vacances en juillet-août, hein, on est d'accord.
C'est non, pas possible. Jamais, jamais. Jamais, non. On ferme 10 jours par an et c'est toujours la période la plus calme. On laisse même passer le mois de septembre parce qu'on a une grande clientèle de retraités qui arrive généralement en septembre. Donc, nous, les vacances, c'est plutôt début octobre.
Bon, il faudra être patient et traverser cette saison estivale. Il y a des choses particulières que vous faites, tiens, l'été, des petites spécialités que vous ne faites que l'été?
Ah oui. Ah ben déjà, toutes nos salades niçoises, elles sont faites principalement l'été en période des fruits et légumes, on va dire. On a notre fameuse pizza saladière, on a le pan bagna, on a la tourte oblette. Enfin bref, on a de la spécialité à Nice. En fait, j'irais presque jusqu'à dire qu'à Nice, tout est spécial.
et vous fournissez toujours l'hôtel Negresco?
Bien sûr, plus que jamais. Hein. D'ailleurs, on appréhende la saison d'été parce que c'est vraiment un gros marché pour nous, avec une grosse population. Et c'est vrai que là, on commence à faire chauffer les baskets parce qu'il faut vraiment qu'on puisse s'assurer qu'on n'a pas le droit de se planter. Hein. Je veux dire, l'hôtel Le Negresco à fournir en viennoiserie le matin, c'est quelque chose de très, très, très important pour ma petite boutique. Donc, on fait tout ce qu'il faut. J'ai embauché une personne pour toute la période de l'été, un pâtissier.
D'accord.
Qui me donne la main à faire les gâteaux, la viennoiserie, donc tout ce qui est snacking, pour que moi je puisse me libérer plus de temps à passer sur ma viennoiserie, notamment mes croissants et mes pains au chocolat.
Bah écoutez, très, on vous très souhaite important.
Je voulais juste, j'aimerais juste aller en quelques secondes. Je voulais vraiment remercier toute l'équipe d'Europe 1, mais surtout celle des Doigts dans l'assiette, parce qu'une fois de plus cette saison, hein, tout comme l'année dernière, vous m'avez laissé toute l'année m'exprimer au gré de mes volontés. Vous ne m'avez jamais rien imposé. J'ai toujours proposé les sujets à chaque fois. Vous les avez toujours acceptés. Donc, je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai vraiment été libre dans ma parole. Et vraiment, merci à tous.
Eh bien, je suis très touché. Et c'est nous qui vous remercions, Frédéric, pour votre fidélité au Doigt dans l'assiette. On vous a retrouvé comme ça toute l'année, tout au long de la saison. Et on a vécu avec vous dans votre boulangerie. Merci à vous. Je vous souhaite un bel été. Bon courage.
Merci beaucoup. Au revoir.
5h27. Très bon réveil à tous. Avec Centre-Ville, Calogero qui avait été découvert par France Gall. Hein, son groupe, les Charts, à l'époque, avait été découvert par France Gall dans les années 80. Laurent Cabrol pour la météo, avec du mieux, Laurent Cabrol.
Oui, ça s'améliore, enfin. Mais c'est une amélioration qui semble malheureusement provisoire. Enfin, en tout cas, ne parlons pas de ça. Profitons de ce qui se présente, à savoir, sur la moitié nord, encore des nuages, encore quelques bruines ici ou là. Et rapidement, les éclaircies vont l'emporter. Alors, je ne dis pas que dans l'après-midi, il n'y aura pas quelques averses, hein, ici ou là, notamment sur la Normandie, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, mais sur la Bourgogne. Mais dans l'ensemble, quand même, ce sont les éclaircies qui vont s'imposer très, très largement. Et sur la moitié sud, il fera beau, presque beau, parce que ce sera du beau temps nuageux. Mais enfin, ne nous plaignons pas, c'est une journée sympathique, d'autant que les températures sont en hausse. Cet après-midi, 19 degrés à Lille, 22 à Caen, 23 degrés à Clermont-Ferrand, 24 à Paris. Oui, nous gagnons, vous voyez, 3-4 degrés. Hein. 26 degrés à Lyon, là aussi, progression. 28 à Aubenas, à Ajaccio, Toulouse et Perpignan. 30 degrés à Marseille et même 32 à Nîmes.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
L'Amérique toujours confrontée à la chaleur, une centaine de décès enregistrés au Canada, des incendies aux États-Unis. Nous serons à Vancouver dès le début de ce journal. 28 jours désormais, un congé paternité doublé pour les papas à partir d'aujourd'hui. Ce jeudi aussi, grève chez Aéroport de Paris, 5 jours de mobilisation prévus. Si vous devez partir dans la période, il est conseillé d'arriver un peu plus tôt pour prendre son vol. À suivre aussi dans ce journal, la tribune de 200 élus pour une candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle et un prétendant qui ne se cache plus sur le Tour de France. Le Slovène tenant du titre, Tadej Pogacar.
Après le journal, comment réduire sa facture énergétique? Le tarif réglementé du gaz augmente de presque 10% aujourd'hui. Les conseils dans 10 minutes d'Antoine Autier, spécialiste à l'UFC Que Choisir, avec notamment ses achats groupés pour faire des économies.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des câbles qui fondent, des routes qui craquent et des corps mis à rude épreuve, parfois jusqu'à la mort pour les plus fragiles. L'ouest du continent américain continue de suffoquer, provoquant aussi des incendies. 9000 pompiers déployés en Californie, aux États-Unis, pour faire face à un feu qui a déjà détruit 7000 hectares. Plus au nord, au Canada, menace d'incendie également. C'est ainsi que, après avoir enregistré un record historique de 49 degrés 6, le village de Lytton est désormais en train d'être évacué. Alexandre Lepoutre, vous êtes au Canada pour Europe 1.
Oui, à cause d'un feu de forêt qui se déplace à toute vitesse. Le maire dit que le village est en feu. Il a ordonné il y a à peine quelques heures un ordre d'évacuation et la situation évolue très vite. Ici en Colombie-Britannique, dont les forêts recouvrent d'ailleurs les deux tiers du territoire, on compte pour l'instant une quarantaine d'incendies toujours actifs, dont 6 qui sont considérés comme non maîtrisés. Alors pour ne pas empirer la situation, la province a décidé d'interdire à la population de faire des feux de camp. Et comme l'explique Anne Boulanger, chercheure en écologie forestière à Ressources naturelles Canada, les prochains jours vont être compliqués.
Il va y avoir des risques d'orage dans les prochains jours qui risquent d'allumer d'autres incendies.
Et cette vague de chaleur est aussi meurtrière. Elle aurait fait au moins 486 morts en 5 jours, surtout des personnes âgées. Mais il faut prendre ces chiffres avec précaution parce que tous les morts ne sont peut-être pas liés à cette chaleur. Mais en tout cas, on a bien une mortalité 3 fois plus élevée que d'habitude. Et le bilan s'alourdit de jour en jour.
Alexandre Lepoutre au Canada pour Europe 1. Le Canada toujours où les découvertes macabres se succèdent. 182 nouvelles tombes anonymes mises au jour près d'un ancien pensionnat pour autochtones des établissements qui visaient à convertir les enfants des communautés locales au catholicisme.
Deux semaines de plus, le congé paternité allongé entre officiellement en vigueur aujourd'hui.
28 jours désormais, une semaine à prendre après la naissance, le reste à répartir jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Un congé dont certains papas ont pu bénéficier avec un peu d'avance, la mesure s'appliquant à tous les enfants dont la naissance était prévue en juillet, même quand leur arrivée été prématuré. C'est ce qui est arrivé à Franck et Sophie installés à Aix-en-Provence. Ils témoignent avec Diane Berger pour Europe 1.
Voilà. Alba est née jeudi dernier, avec 8 jours d'avance. Le terme était fixé au 2 juillet. Son père, Franck, a donc bien droit aux 28 jours de congé paternité. Une joie et un soulagement pour lui.
Reprendre rapidement le travail, je pense que moralement c'est compliqué. Physiquement aussi, donc avoir un peu plus de jours, c'est mieux, pour prendre plus de repères. Il faut s'occuper à 24 heures sur 24 de la petite. C'est fatigant, mais c'est que du bonheur.
Grâce à ce long congé, le nouveau papa peut s'occuper des courses ou du ménage quand sa femme allaite, et surtout faire connaissance avec sa fille. Deux semaines, ça n'aurait pas été suffisant, estime Sophie, la maman.
C'est vraiment un plus parce que ça permet d'apprendre à vivre les premiers temps avec un petit bébé à la maison. On sait qu'on va avoir le temps de faire un petit peu plus de sorties pour la balader, pour en profiter à trois.
Profiter pendant 28 jours, deux fois plus de temps qu'avant la réforme, c'est presque encore un petit peu trop court pour Franck, qui a déjà posé des semaines de vacances supplémentaires après son congé.
Autre changement ce 1er juillet, l'augmentation de 10% des tarifs réglementés du gaz, la baisse des primes pour l'achat de voitures électriques ou encore la mise en place d'indemnités journalières pour les professions libérales en arrêt maladie.
Ce 1er juillet également marque le début d'une grève de 5 jours chez ADP Aéroports de Paris.
Une mobilisation contre un plan de modification des contrats de travail qui prévoit notamment la suppression de certaines primes. ADP évoque la nécessité de faire des économies alors que le chiffre d'affaires du groupe a chuté de près de 80% avec la crise.
Alors ce mouvement aura-t-il des conséquences sur le trafic alors que s'annonce les premiers départs en vacances? Élément de réponse avec vous Aurélien Fleureau, vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1.
Alors l'essentiel des perturbations devrait se concentrer sur la journée de demain, vendredi, puisque les différents syndicats ne seront pas tous en grève en même temps. À ce stade, pas d'annulation de vol à prévoir, mais en revanche des retards. Compliqué à anticiper pour les compagnies aériennes. Un débrayage de pompiers d'aéroport, par exemple, peut entraîner un ralentissement à l'embarquement, le temps de trouver une solution pour respecter les normes de sécurité. Edward Arkwright est le directeur général exécutif du groupe ADP.
Le conseil qu'on peut donner à tous les passagers qui veulent emprunter les aéroports parisiens vendredi, samedi, dimanche prochain, c'est d'anticiper un petit peu leur arrivée à l'aéroport, de se renseigner en plus évidemment des renseignements habituels sur les formalités sanitaires, sur la localisation de leur compagnie, notamment à Charles de Gaulle, et puis de prendre peut-être une demi-heure de marge par rapport à ce qu'ils auraient fait d'habitude.
En ce moment, 38% des salariés sont encore au chômage partiel. Sur les salaires, les négociations continuent. Ils doivent baisser de 4% en moyenne et retrouver leur niveau de 2019 quand le trafic aérien aura retrouvé son niveau d'avant-crise.
Ce jeudi aussi, grève à la SNCF pour des questions de rémunération. L'impact devrait se limiter au TER aujourd'hui et s'étendre au Ouigo demain.
5h36, la politique et le Parti Socialiste qui entend capitaliser après ses bons résultats aux élections régionales le week-end dernier.
Et pour cela, une personnalité émerge, celle d'Anne Hidalgo. Ce matin, 200 élus socialistes signent une tribune pour appeler la maire de Paris à être candidate à l'élection présidentielle. Pour Europe 1, Claudia Bertram.
Anne Hidalgo ne s'est pas encore déclarée candidate à la présidentielle, mais ses soutiens s'activent, comme le sénateur PS Patrick Kanner, l'un des initiateurs de cet appel.
On constate depuis dimanche soir 20h une accélération. Tout le monde est déjà la tête, non pas dans les étoiles, mais la tête dans la séquence électorale qui arrive. Il est normal que nous puissions espérer en une candidature.
Après les bons résultats des socialistes au régional, pas question de regarder passer les trains. Alors que les écologistes se lancent pleinement dans leur primaire, Anne Hidalgo peut compter sur de nombreux maires comme celui de Montpellier, Michaël Delafosse.
Comme maire de Paris, mais aussi parce qu'elle incarne bien ce lien entre la question écologique, la question sociale, celle du travail. C'est Anne Hidalgo qui peut assurer à la gauche d'être présente à la présidentielle et de l'emporter.
Parmi les signataires également, la maire de Nantes, Johanna Roland.
Une partie du peuple de gauche se sent un peu comme orphelin. Ils n'ont pas envie de devoir choisir uniquement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, on doit se donner les moyens de proposer une alternative.
Pour le moment, Anne Hidalgo stagne à moins de 10% dans les sondages. Mais la maire de Paris va continuer à envoyer des signaux. Un proche le confirme, l'été sera très actif.
Chez les écologistes, après Sandrine Rousseau et Éric Piolle, Yannick Jadot entre officiellement dans la bataille de la primaire. Il l'a annoncé hier soir sur le plateau du 20h de TF1.
Le verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Willy Bardon pour le meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme en janvier 2002. Hier, 30 ans de prison ont été requis à son encontre.
L'accusé qui clame son innocence prendra une dernière fois la parole ce matin. Hier, ses avocats ont réclamé l'acquittement. Lionel Gougelot suit les audiences pour Europe 1.
Un dossier d'accusation qui n'est qu'un château de sable, des preuves qui n'en sont pas. Pendant leurs 4 heures de plaidoirie, les trois avocats de Willy Bardon ont tout fait pour instiller le doute dans l'esprit des jurés. Le doute sur la fiabilité des témoignages de ceux qui ont dit reconnaître la voix de Willy sur 2 secondes de la bande-son de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers au moment de son agression. Le doute sur les ragots, les rumeurs qui ont dressé le portrait d'un prédateur sexuel potentiel. Le doute enfin sur une enquête déloyale, selon eux, qui a fabriqué un coupable idéal alors qu'aucun élément matériel, ADN ou empreinte digitale ne permettait de le mettre en cause. Alors bien sûr, comme l'a dit l'avocate générale, la salle d'audience résonne encore des gémissements d'effroi d'Élodie, mais l'un des défenseurs de Bardon, Stéphane Dacco, implore les jurés de ne pas se réfugier derrière ce qu'il appelle la facilité de l'émotion.
Bien évidemment qu'il y a de l'émotion, c'est normal et c'est compréhensible. Je l'ai dit, je ne peux imaginer un seul instant la douleur et la vie de Jackie Kulik au quotidien. Par contre, si on s'arrête à ça, si on filtre ce dossier au seul regard de la douleur des parties civiles, on s'égare, on s'éloigne et on risque de se perdre.
Willy Bardon aura encore quelques minutes à la reprise de l'audience ce matin pour tenter de de convaincre qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Son sort sera ensuite entre les mains des 9 jurés et des 3 magistrats de la cour. Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
On en vient au Tour de France et la victoire hier sur le contre-la-montre du tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar.
Et un succès qui lui permet de grimper à la deuxième place du classement général à seulement 8 secondes du maillot jaune Mathieu Van Der Poel. Axel May, le vainqueur sortant, s'est clairement positionné comme le favori numéro 1.
Eh bien, disons qu'en remportant le contre-la-montre sur un tracé qui convenait davantage aux spécialistes de la discipline, Tadej Pogacar passe un message clair à ses adversaires. Le patron, c'est moi. Je suis le vainqueur sortant de la grande boucle et je compte revêtir le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Écoutez, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour dans les années 70.
C'est Pogacar le grand gagnant de ce contre-la-montre. Après, on verra ce qu'il a envie de faire dans les Alpes. Mais pour l'instant, c'est lui qui donne les meilleurs gages quant à la condition physique. Bon, cela dit, dans le Tour de France, les vérités de la première semaine sont pas forcément celle de la troisième.
Interrogé sur son statut de favori, Poggi, comme il est surnommé en Slovénie, répond
yeah, I guess so. We will see.
Je pense que oui, mais on verra. Ce qui est certain, c'est que le jeune homme de 22 ans a, contrairement à la plupart de ses rivaux directs comme Roglic et Thomas, échappé aux chutes. Son corps n'a donc pas souffert et ce week-end, avec l'arrivée des Alpes, Tadej Pogacar pourrait bien s'emparer du maillot jaune.
Et ce jeudi, sixième étape entre Tours et Châteauroux, 160 km au programme.
Marion Calais pour le journal, il est 6h20. Et quels sont les pronostics du Quintet ? C'est à vous Thierry Léger.
C'est en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que se disputera ce Quintet à handicap qui réunira 15 chevaux et non 16, comme initialement prévu, le numéro 1 ayant déclaré forfait. Ayant souvent bien couru sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp, les numéros 3 Milfield et 7 Toysk me semblent être deux bons favoris. Ils ont en plus hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, le paramètre souvent nécessaire pour réussir sur ce tracé. On leur opposera Oxalis, le numéro 2, lauréat avec la manière sur cette piste le 10 juin dernier, après avoir pourtant été absent durant plus de 10 mois avec Arabino, le numéro 10, dont la dernière fin de course à Longchamp dans un quintet similaire n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin, les numéros 11, Shielding, 4 Barakattle, 14 Wasashop et 9 Raystave compléteront ma sélection. Mon pronostic 3, 7, 2, 10, 11, 4, 14 et 9.
C'est noté Thierry Léger, on retrouvera tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 5h42 aujourd'hui, 1er juillet, la facture de gaz augmente à nouveau de près de 10% après déjà 4% d'augmentation au mois de juin. Bonjour Antoine Autier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7. Vous êtes le responsable adjoint des études à l'UFC Que Choisir. 10% d'un coup sur la facture, ça fait beaucoup, non ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, ça fait beaucoup. C'est quasi inédit hein, d'avoir des hausses aussi élevées. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a assisté notamment l'année dernière, en raison de la crise sanitaire, une baisse de la demande de gaz, des besoins en raison de la crise sanitaire, et que là, on assiste à un redémarrage de l'économie, et donc une hausse de la demande de gaz, et que parallèlement, on assiste à des tensions sur la partie production. Et donc évidemment, ça c'est la règle du marché, c'est que la demande augmente, l'offre baisse, et donc les prix augmentent. Et comme le tarif réglementé de vente du gaz est en lien très important avec les évolutions sur les prix du gaz sur le marché de gros, et finalement ça se répercute sur les factures des consommateurs.
Et ça va continuer ? À quoi il faut s'attendre là, dans les mois qui viennent ?
Eh bien finalement, on ne le sait pas, dans le sens où le tarif réglementé du gaz augmente ou diminue finalement, en tout cas évolue mois après mois. C'est-à-dire qu'on peut très bien des mois à plus 10% et des mois derrière à moins 5 ou moins 6%. Par contre, on peut en effet avoir des craintes sur les futurs mois et notamment sur les mois d'hiver, dans le sens où il est peu courant d'avoir des hausses aussi importantes en plein milieu de l'été. C'est-à-dire que évidemment, l'été, la demande en gaz des ménages relativement faible parce que, notamment, si vous êtes chauffé au gaz, vous ne faites pas fonctionner le chauffage en plein milieu de l'été. Mais si, évidemment, on assiste à toujours ces tensions sur le marché du gaz à la fin de l'année et que là, les consommateurs ont besoin de gaz pour se chauffer et donc la demande va augmenter, on pourrait assister à une hausse également au cours des mois d'hiver. Et là, l'impact sur les factures serait évidemment très important.
Pour l'électricité, c'est la même chose, c'est la même tendance en ce moment ?
Alors, l'électricité, c'est presque pire. Hein, parce que quand on regarde le gaz, gaz, sur une base annualisée, on se rend compte qu'au cours des 4-5 dernières années, il n'y a pas eu vraiment de variation, ni à la hausse, ni à la baisse. Tandis que sur l'électricité, là, oui, en effet, on a des hausses très importantes. On a pointé du doigt dans une étude récemment que les prix de l'électricité ont augmenté de 50% en 10 ans, de 2010 à 2020, et que la dynamique inflationniste est très importante, notamment depuis 2019. Et donc là, on a beaucoup de craintes sur le marché de l'électricité. Tous les ménages, évidemment, ont besoin d'électricité, avec une analyse qui est différente. C'est que autant sur le gaz, il y a grosso modo l'évolution sur les marchés de gros qui font que les prix évoluent sur le marché des factures de gaz. L'électricité, c'est vraiment un problème de régulation du secteur qui explique une hausse très importante des prix payés par les consommateurs. Donc on voit bien que là, c'est un peu la double peine. C'est que non seulement on a une hausse très importante des prix d'électricité, et en plus, si on assiste à une dynamique à nouveau inflationniste sur le gaz au cours des prochains mois, ben là, les ménages vont payer à la fois plus cher le gaz et l'électricité, avec un impact évidemment très important sur les factures.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a intérêt à changer de fournisseur d'énergie, puisque désormais on peut le faire? Est-ce que c'est intéressant de faire jouer la concurrence?
C'est très intéressant de faire jouer la concurrence, notamment enfin sur le gaz et l'électricité, parce que les tarifs réglementés, que ce soit du gaz ou de l'électricité, sont généralement des prix plafonds du marché. C'est-à-dire qu'en allant sur les offres de marché, et d'ailleurs des offres de marché qui sont aussi commercialisées par Engie et EDF, vous pouvez finalement à des prix bien plus intéressants que via les tarifs réglementés, et non seulement des prix plus intéressants, mais aussi des offres différentes, et notamment sur le gaz. Une des problématiques avec l'évolution des tarifs réglementés, c'est que les prix évoluent tous les mois. Donc, c'est-à-dire que vous avez un problème avec de prévisibilité budgétaire. Grosso modo, vous ne savez pas très bien à l'avance ce que vous allez payer le mois suivant. Tandis que sur les marchés, vous avez des offres à prix fixe sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc évidemment vous préserve des évolutions sur les prix des prix d'énergie sur les marchés de gros. Donc ce qu'il faut évidemment, c'est comparer, et surtout sur le gaz, on peut dire, c'est que le tarif réglementé du gaz va de toute façon s'éteindre en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, il y aura plus de tarif réglementé du gaz. Il y a aujourd'hui à peu près encore 30% des consommateurs qui ont un abonnement gaz qui sont au tarif réglementé, et eux, de toute façon, devront changer d'offre d'ici 2023. Donc on peut que les inviter à comparer sur des comparateurs. Il y a le médiateur national de l'énergie qui est un comparateur. Sur quechoisir.org aussi, vous avez un comparateur gratuit. Et vous renseignez votre profil de consommation, et on vous liste finalement l'ensemble des fournisseurs, et vous voyez lequel vous propose le tarif le plus attractif.
Alors voilà des solutions, Antoine Autier. Et vous, à l'UFC Que Choisir, vous proposez aussi ce qu'on appelle des achats groupés. Donc vous réunissez des consommateurs. Vous relancez cette opération encore cette année. Comment ça fonctionne?
Alors, ça fonctionne de manière très simple. C'est-à-dire, nous disons aux consommateurs de s'inscrire sur la plateforme choisirensemble.fr, et en septembre, nous allons mettre en concurrence les fournisseurs en leur disant « voilà, nous avons 200 000 consommateurs qui sont intéressés éventuellement pour aller vers vous, quel est le prix que vous leur proposez ?» Et finalement, c'est les opérateurs, les fournisseurs qui vont se faire une enchère, concurrence, et finalement, celui qui va remporter l'enchère sera celui qui proposera le prix le plus attractif. Cette enchère aura lieu le 21 septembre, et une offre personnalisée arrivera pour tous ceux qui seront inscrits au mois d'octobre. Et là, vous pourrez voir si finalement l'offre que vous avez est beaucoup plus intéressante ou non que l'offre que vous avez actuellement. Et vous serez libre de choisir d'y souscrire ou non. Et j'ajoute...
D'accord, on pourra choisir après, une fois qu'on connaîtra le prix, on
exactement, c'est sans engagement, bien entendu. Ouais. Et aussi un élément intéressant dans cette campagne, c'est qu'on sait que le secteur de l'énergie était quand même un secteur où il y a beaucoup de litiges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de cette opération, c'est que l'UFC Que Choisir a négocié le contrat et elle l'impose au fournisseur, et qu'en plus, en cas de litige avec le fournisseur, vous avez un accompagnement personnalisé par la fédération de l'UFC Que Choisir. Donc, c'est quand même vous préserver des mauvaises surprises.
C'est possible partout en France ?
Absolument, c'est possible partout en France.
Quel bilan vous tirez des années précédentes, puisque c'est une opération que vous réitérez chaque année? Est-ce que ça permet systématiquement de faire des économies? Est-ce que vous les avez chiffrées?
Oui, absolument. Sur le site choisirensemble.fr, vous avez l'historique des campagnes précédentes. Et globalement, ce qu'on peut remarquer, que ce soit pour le gaz ou l'électricité, c'est que l'économie annuelle moyenne qu'ont réalisé les consommateurs qui ont souscrit ces offres, c'est de l'ordre de 150 euros par an. Donc, D'accord. On voit bien quand même que ça fait une économie assez importante. Et votre économie sera, c'est qu'une moyenne, évidemment, donc votre économie sera d'autant plus importante que vous consommez beaucoup d'électricité ou de gaz.
Choisirensemble.fr, donc pour regarder ces achats groupés et éventuellement s'inscrire. Merci à vous pour votre éclairage ce matin, Antoine Autier, responsable adjoint des études à l'UFC Que Choisir. Très bonne journée à vous.
À vous aussi, merci. Europe 1.
5h49, c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Dans nos régions, avec vous, Lénaïque Monnier, où est-ce qu'on va ce matin?
À Coutances, une légumerie essaie de soigner les papilles gustatives des malades de l'hôpital.
Le 5-7 continue en direct, à tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h50. Vacciné, guéri ou testé négatif, il faudra monter patte blanche à partir d'aujourd'hui pour franchir les frontières européennes. C'est l'entrée en vigueur du pass sanitaire, indispensable pour voyager au sein de l'Union. Et à l'heure des premiers départs en vacances, deux grèves à signaler à partir d'aujourd'hui chez Aéroports de Paris et à la SNCF, des mouvements qui pourraient provoquer des retards. Et puis le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, discours cette nuit du président Xi Jinping, qui assure que le temps où son peuple pouvait être foulé aux pieds et opprimé est à jamais révolu.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge avec vous, Lénaïque Monnier, ces initiatives que nous mettons en lumière chaque jour à travers la France. Et nous sommes donc dans la Manche.
Oui, si vous avez déjà fait un séjour à l'hôpital, vous savez à quel point l'arrivée du plateau repas est parfois un moment difficile à passer, du surgelé, de l'insipide. Alors qu'un bon repas, eh bien, c'est plutôt réconfortant. C'est pour ça qu'une légumerie a eu une idée. Fabriquer 3000 repas par jour à base de fruits et de légumes frais, en remplacement de la purée un peu flasque et pleine d'eau qu'on peut parfois trouver dans son assiette. Le but, c'est d'atteindre rapidement 500 kg de légumes par jour. La légumerie va recevoir très prochainement des machines pour automatiser certaines tâches. Pour l'instant, tout se fait à la main. On lave, on épluche, on découpe, on conditionne.
Et ce sont des bénévoles qui ont lancé cette initiative.
Oui, et fin mai, c'est donc tout récent. Ils se sont installés dans l'ancienne usine de l'hôpital de Coutances. Un déménagement est prévu dans les prochains mois pour augmenter la capacité de production. Parce que d'ici 2 ans, cette légumerie va préparer également des soupes et des coulis à partir de fruits et légumes qui n'auront pas été distribués par la banque alimentaire. Ça évitera en plus le gaspillage. On pourra compter sur du bio et du local, notamment 50 km à la ronde, pas plus. Autre vertu, c'est la réinsertion. Il y a des bénévoles, mais ce chantier prévoit d'accueillir également 12 salariés. Ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée. Et ensuite, ils fourniront aussi les écoles primaires et les crèches. Là, ce sera à Coutances et à Saint-Lô.
Voilà pour cette belle initiative, donc cette légumerie dans la Manche. Merci Lénaïque Monnier. 5h52, on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux. Martin Lange.
Eh bien, c'est un tweet qui nous a beaucoup énervé. Moi le premier, le site de pronostic Mon Petit Prono a mis en ligne les affiches des quarts de finale de l'Euro pour ses joueurs. Avec ce message, fais ton prono sur France-Espagne.
Aïe, aïe, aïe.
Sauf que les Bleus sont éliminés, vous le savez. Ce sera Suisse-Espagne, de quoi remuer le couteau dans la plaie encore béante sur les réseaux. Mais une bourde peut-être pas si involontaire.
Ah, vous voulez dire qu'ils l'ont peut-être fait exprès? Parce que le compte Mon Petit Prono est réputé pour son humour second degré.
Exactement, ils passent leur temps à faire des blagues sur le pénalty raté de Mbappé, la légendaire mauvaise foi des Belges, ou encore sur les résultats de leurs joueurs. Et ça marche, ils sont suivis par plus de 50 000 personnes sur Twitter.
Un mélange donc d'humour et de foot qui cartonne sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est quoi Mon Petit Prono?
Alors c'est un site de pronostic, mais très différent de la concurrence. Pas d'argent en jeu, on joue les uns contre les autres, entre amis, entre collègues aussi. Beaucoup d'entreprises s'y sont mises. Ça s'appelle des ligues. On se réunit à 6, 8, 10, parfois plus. Chacun fait ses paris. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de bons résultats qui gagne. Une médaille en chocolat ou l'admiration de ses amis. Rien de plus. La plateforme a été lancée en 2014 pour la Coupe du Monde au Brésil. Et depuis, tous les 2 ans, elle est réactivée à la veille des grandes compétitions et cartonne de plus en plus. 850 000 utilisateurs pour la Coupe du Monde en Russie il y a 3 ans maintenant, et plus d'1 million cette année pour l'Euro. Parmi eux, des fans de foot évidemment, mais aussi des novices et beaucoup de femmes, c'est une des particularités.
Donc ça n'a rien à voir avec les sites de paris en ligne payants, on ne mise pas d'argent, on ne gagne pas d'argent non plus, c'est pour le jeu. Mais justement, si ces paris sont gratuits, comment Mon Petit Prono gagne de l'argent?
Et grâce à la pub d'abord, et surtout parce que derrière Mon Petit Prono, il y a un autre jeu, Mon Petit Gazon, lui aussi gratuit, mais qui fonctionne toute l'année. Le principe, se mettre dans la peau d'un entraîneur de Ligue 1 et acheter des joueurs pour affronter ses amis tous les week-ends. Là aussi, près d'1 million de joueurs actifs et un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros.
Voilà, ça cartonne, c'est convivial et en plus ils ont de l'humour. Alors, on n'a pas le fin mot de l'histoire, s'ils l'ont fait exprès ou pas?
Oh, je pense que si. Très honnêtement. Ils n'ont pas répondu, mais je pense que si.
Martin Lange qui suit les réseaux sociaux chaque matin, 5h54. L'histoire du jour de Christophe Ondelatte, c'est celle de l'affaire de l'abbé Auriol. Une histoire croquignolesque qui remonte à la fin du 19e siècle. À Noël, un village de Catalogne, l'abbé Auriol succombe au péché de chair et pas que. Le récit dans Ondelatte raconte, c'est à 14h sur Europe 1. Mais dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous, des solutions positives chaque matin pour l'environnement. Et une alerte en fait ce matin. Vous voulez nous alerter sur une grande menace qui plane sur le calmar, au point que la Chine décrète un moratoire.
Le squid en anglais, le calmar en français, aussi appelé encorné, et sur le grill, sans mauvais jeu de mots. Du coup, sur ordre du ministre chinois de l'Agriculture, l'arrêt de la pêche des céphalopodes est déclaré. Le calmar, qui est en effet victime de la surpêche. La Chine représente environ 70% des prises et ses activités de pêche hauturière le traquent très loin de son territoire jusqu'en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. Arrêter temporairement la pêche dans les principales zones de frais du calmar, c'est-à-dire là où ils se reproduisent, devrait donner une chance aux populations de se reconstituer.
Parce que si la Chine décrète ce moratoire, c'est que la situation est vraiment grave.
On constate un recul récent des captures des trois principales espèces d'encornés, l'encorné géant, l'encorné rouge argentin et le japonais. Mais ce qui est louche, c'est que la Chine n'est pas réputée pour son autorégulation. Il faut dire que le pays est très critiqué pour ses pratiques sans gêne et que ce moratoire intervient à la suite de polémiques dues à la forte présence des bateaux chinois dans des zones préservées. En juillet 2020, l'Équateur avait tapé du poing sur la table lorsque des bateaux de pêche chinois avaient été retrouvés à proximité des îles Galapagos. Ce moratoire arrive alors pour calmer le jeu et montrer que le pays est capable de prendre des dispositions face à la diminution des ressources halieutiques.
Mais ça veut dire quoi, Fanny ? Ça veut dire que selon vous, ce moratoire, c'est juste de l'affichage au niveau international ?
Il semblerait qu'en annonçant ce moratoire pour des pêches qui ont lieu dans des zones internationales, la Chine s'affiche comme bon élève. Cet arrêt temporaire de la pêche au calmar intervient à une saison où ces derniers sont peu présents du fait de leur cycle biologique. Ce qui veut dire que cette mesure n'est pas franchement difficile à prendre pour les navires chinois, qui de toute façon ne pêchent pas beaucoup sur cette période et les conséquences seront donc limitées en matière de reconstitution des stocks. C'est rageant quand la FAO indique que pour les calmars comme pour le reste, 31% des stocks des produits de la mer sont exploités à un niveau non biologiquement renouvelable et 58% sont surexploités. La mer n'est pas un puits sans fond. Or, cette immensité vitale qui recouvre les deux tiers de notre planète ne peut plus aujourd'hui supporter l'existence de zones de non-droit. Rappelons que dans le monde, seulement 4% des océans bénéficient d'une législation protectrice.
Merci à vous. Fanny Agostini, notre planète avec vous chaque matin. À demain.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous, vous êtes sur Europe 1, ravi de vous accompagner. Courage si le réveil sonne ce matin, il est presque 6h du matin. Nous sommes le jeudi 1er juillet. C'est une date importante, une date symbolique. La fin des jauges dans les restaurants, les cinémas, les commerces et la vie normale. Peu à peu qui reprend, mais sous la menace du variant Delta, on va en parler, et à un moment où la vaccination connaît un net ralentissement. Regardez, rien que ce chiffre, 100 000 rendez-vous ne trouvent pas preneur chaque jour dans les centres de vaccination, alors qu'on n'est qu'à la moitié de la population française vaccinée. Alors comment aller chercher, comment aller convaincre les réticents? Les médecins demandent que les non-vaccinés soient listés et que les praticiens aient accès au nom de leurs patients qui n'ont pas encore été immunisés. Alors cela fait débat, le ministre de la Santé y est favorable, mais a demandé un avis à la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. On va en parler à 6h40 avec mon invité, le docteur Jérôme Marty, de l'Union Française pour une médecine libre. D'ici 7h, tous vos rendez-vous, la revue de presse internationale, on ira en Chine, tiens, pour les 100 ans du Parti communiste chinois, discours très solennel cette nuit de Xi Jinping, et puis de la musique, comme tous les matins. Avec Tina Turner, qui sur scène était comparée à James Brown, une combattante rock'n'roll, la lionne Tina Turner dans la partition d'Omblin Roche. Ce sera à 6h20. Laurent Cabrol, je crois que vous avez des bonnes nouvelles ce matin.
Oui, des bonnes nouvelles. Allez, on ne va pas on ne va pas gâcher notre plaisir. Certes, il y a encore un petit peu de pluie, certes, il y a encore des brumes, des brouillards, des nuages bas, parce qu'il y a beaucoup d'humidité sur la France, bien sûr, vous l'avez compris. Mais nous allons vers une journée qui s'annonce quand même ensoleillée, surtout un après-midi très ensoleillé. Alors, bon, il y a quand même quelques nuances. Sur la Lorraine, l'Alsace et les Ardennes, les nuages seront menaçants tout au long de la journée, mais enfin, bon, ne dramatisons pas. Sur la brume, les brouillards, brouillards sur les côtes de Atlantique et les côtes de la Manche, en ce moment, mais ils vont s'en aller. Sur le nord Picardie, sur la Bourgogne et la Franche-Comté, une petite humidité matinale. Vous voyez que ce sont des nuances tout à fait anodines, puisque dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont apparaître partout. Des éclaircies, j'ai pas dit que le ciel serait complètement limpide. Non, ce sont des éclaircies, donc un beau temps nuageux. Et le grand soleil pour le sud-ouest, le Limousin, la Provence, la Côte d'Azur, la Corse, c'est là qu'il fera le plus beau. Aujourd'hui, bon, on y est habitué. Les températures maximales, elles montent, ça c'est encore une bonne nouvelle. 20 à Strasbourg, 21 à Brest, 22 à Paris, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Rennes, 26 à Bordeaux, 27 à Lyon, 29 à Toulouse, 30 à Marseille, 32 à Alès. Ce sont des températures qui montent de 1 à 2 degrés par rapport à hier. Demain, ça sera encore plus beau. Et malheureusement, j'ai l'impression
ah,
que
non. De semaine, arrêtez-vous là. Sera, voilà, oh là 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 là.
Bon. Il ne sera pas terrible, mais on en reparle. Bon,
on verra ça tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.